Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel, 23h à Beyrouth. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Fanny, bonsoir à tous.
Et à la une de l'actualité ce soir, l'état d'urgence décrété pour 2 semaines à Beyrouth. Au lendemain de la double explosion sur le port, le quartier est en ruine. De nombreuses personnes ont été blessées hier soir, environ 5000, et les hôpitaux sont saturés. Le Liban demande l'aide d'autres pays. La France a déjà envoyé 3 avions et Emmanuel Macron sera sur place demain.
Un geste politique et religieux en Inde, un geste fort du Premier ministre Narendra Modi. Il a lancé aujourd'hui le chantier d'un temple hindou controversé.
Les efforts se multiplient en France pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les masques sont déjà obligatoires dans les lieux publics clos. Ils le sont de plus en plus dans les quartiers de certaines villes en plein air. Ce devrait bientôt être le cas aussi à Paris.
Le journal.
En français facile.
Journée de deuil national au Liban. Le pays pleure ses morts au lendemain de la double explosion à Beyrouth.
Un nouveau bilan du ministère de la Santé fait état de 135 morts. Il y aurait aussi près de 5000 blessés et 300 000 personnes sans abri, car les explosions ont totalement détruit la zone du port. Les images montrent des bâtiments ravagés. Ahmad Chouri a travaillé pendant 10 ans au port de la capitale. Il décrit l'ampleur des dégâts. Écoutez.
Now the Beirut port is a total mess.
Le port de Beyrouth est complètement dévasté. Le port n'est plus opérationnel et à mon avis, il ne le sera pas avant 1 ou 2 ans. Plus aucun entrepôt ne tient encore debout. Les hangars ont tous été soufflés par l'explosion. La zone de dédouanement des containers a été totalement détruite. Même les grues ont été endommagées. Les bureaux de l'autorité portuaire ont été touchés ainsi que d'autres bâtiments administratifs. Les systèmes informatiques et le réseau électrique sont hors service. Tout est à terre, même les silos qui étaient déjà sur place. Malheureusement, comme nous avons perdu toute connexion avec les systèmes informatiques, nous ne pouvons même pas savoir qui était présent sur le site, qui était à l'ouvrage au moment de la catastrophe. Jusqu'à présent, nous avons perdu 10 de collègues. Des recherches sont en cours pour retrouver les corps. La situation est encore totalement floue pour le moment.
Propos recueillis par Elliot Brachet.
Et les secouristes continuent de rechercher des survivants parmi les décombres. Plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues.
Celles qui ont été blessées sont prises en charge dans les hôpitaux, mais ces hôpitaux sont saturés. Il y a déjà beaucoup de malades du Covid-19. Ils ne peuvent pas accueillir tout cet afflux. André Moawesh de la rédaction de MCD a pu joindre Hicham Fawaz, le directeur du département hôpitaux au ministère de la Santé libanais. Il demande l'aide de la communauté internationale.
Nous avons besoin du soutien de tous les pays, en particulier de nos partenaires, de nos frères dans les pays arabes. Nous avons besoin de tout pays prêt à nous aider. Nous avons besoin d'équipements de protection, de matériel chirurgical, de tout matériel médical. Nos principaux entrepôts ont été entièrement détruits. On parle de millions, peut-être de milliards de dollars de pertes. Tous les médicaments dans ces entrepôts ont été détruits, ainsi que nos stocks d'équipements de protection. Alors, comme vous le savez, nous faisons face au coronavirus en ce moment. Donc on a vraiment besoin d'équipements de protection, de médicaments, de matériel de réanimation, de lits, tout ce qui ressemble à du matériel médical.
Et Fanny, la communauté internationale réagit.
L'Organisation mondiale de la santé a déjà préparé des kits de secours et la France a envoyé 3 avions. À bord, 6 tonnes de matériel, mais aussi plusieurs médecins urgentistes. Emmanuel Macron sera au Liban demain et ce soir à Paris, la Tour Eiffel sera éteinte à minuit en hommage aux victimes. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour blessures involontaires. Environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans l'entrepôt du port de Beyrouth. Le nitrate d'ammonium, c'est une substance explosive qui entre dans la composition de certains engrais. Le chef du Pentagone, Mark Esper, évoque la thèse d'un accident, contrairement à ce qu'affirmait la veille Donald Trump.
RFI, il est 1h34 à Ayodhya, ville du nord de l'Inde.
C'est là qu'a officiellement été lancée aujourd'hui la construction d'un temple hindou, le temple de Ram. Le Premier ministre Narendra Modi était sur place car l'événement est autant religieux que politique. Le lieu est très contesté. En effet, des hindouistes y ont détruit illégalement une ancienne mosquée en affirmant que c'était le lieu de naissance de Ram. Et les nationalistes hindous se réjouissent à présent de la construction de ce temple. Correspondance en Inde de Sébastien Farsi.
Ils sont cinq sur l'estrade de cette cérémonie tant attendue. Un prêtre, le gouverneur et le chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh, le chef de l'organisation hindouiste du RSS et Narendra Modi. Et c'est ce dernier, le premier ministre indien, qui est le principal acteur et qui envoie les offrandes dans le trou qui accueillera les fondations du temple de Ram. Habillé en safran, la couleur de l'hindouisme, et offrant ainsi toute la bénédiction de l'État lors de cet événement purement religieux, le premier ministre indien envoie un message clair, le temple de Ram est aujourd'hui un temple de la République. C'est l'analyse de Nilanjan Mukhopadhyay, auteur spécialiste du nationalisme hindou.
Cette cérémonie efface toutes les séparations entre la religion et l'État. Le dieu Ram n'est plus un dieu, mais il est converti en un symbole du nationalisme indien. Et tous les Indiens qui appartiennent aux minorités religieuses ou qui sont opposés à cette vision n'auront plus voix au chapitre.
Cela faisait 50 ans que les Hindous réclamaient un temple de Ram à cet endroit. Le gouvernement assure qu'il sera terminé dans environ 3 ans, soit juste avant les prochaines élections parlementaires. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
L'Inde, donc, qui est très touchée par la pandémie de Covid-19, c'est le cinquième pays le plus endeuillé au monde.
Au total, on recense à présent plus de 700 000 morts sur la planète, dont 181 personnes de santé en Afrique du Sud. Le ministère de la Santé a fait savoir aujourd'hui que 24 000 soignants avaient été contaminés dans le pays le plus touché du continent africain. Le Brésil, lui aussi, est durement touché. Le cap des 100 000 morts devrait être franchi dans les jours à venir. Et les indigènes n'y échappent pas. On a appris aujourd'hui la mort de l'un des grands chefs indigènes du Brésil, Aritana. Il avait 70 ans et défendait notamment la préservation de la forêt amazonienne. Alors que le virus gagne du terrain, les laboratoires tentent de trouver un vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement de Donald Trump a annoncé ce mercredi un nouvel investissement d'$1 milliard dans le projet de la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson. C'est plus de $9 milliards d'investissement au total.
L'autre solution préventive pour freiner la propagation du virus, c'est le port du masque.
Obligatoire dans certaines villes et ce, même en extérieur. C'est déjà au cas aux Pays-Bas, mais aussi en France, où ces dernières 24 heures, le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 a augmenté, mais le nombre de patients en réanimation, lui, a baissé. Certaines villes donc, comme Lille, Tours, Nice, Biarritz ou Toulouse, ont rendu le port du masque obligatoire dans certains quartiers. Ce devrait bientôt être le cas à Paris. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, en a fait la demande au préfet de police, Didier Lallement. Les précisions de Mélanie Costa.
Berge de Seine, marché à ciel ouvert, rue commerçante, éventuellement aux alentours des gares. Les Parisiens devront eux aussi porter des masques à l'extérieur. L'obligation pourrait même être étendue à d'autres zones, comme autour des lieux touristiques, des musées, des grands magasins et des parcs et jardins. Pour le moment, les lieux restent à confirmer et aucune date n'a été donnée. Mais la préfecture de police et la ville de Paris confirment que les dernières modalités sont à l'étude. En attendant, la ville incite les citoyens à utiliser le masque le plus possible pour éviter une reprise de l'épidémie, mais ce n'est pas très suivi. Dans la rue, 90% des gens n'en portent pas, évalue l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé. En Île-de-France, pourtant, le nombre de contaminations repart déjà à la hausse et une seconde vague de l'épidémie est hautement probable à l'automne ou à l'hiver, selon le conseil scientifique.
Précision signée Mélanie Costa.
En Turquie, des rassemblements étaient organisés aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Les femmes manifestent contre les violences.
À Istanbul, mais aussi à Ankara ou Izmir. Au total, elles étaient plusieurs milliers ce mercredi. Elle demande au gouvernement de Recep Tayyip Erdogan de ne pas se retirer du traité international contre les violences domestiques. Il s'agit de la Convention d'Istanbul, adoptée en 2011. Depuis plusieurs semaines, des associations conservatrices demandent au président de s'en retirer. RFI, les 22h et bientôt 10 minutes à Paris, 20h10 en temps universel. Merci beaucoup Alexis Guilleux de m'avoir accompagné pour ce journal en français facile.
Merci Fanny.
Et merci à vous de votre fidélité à la Radio du Monde. Ce journal est à retrouver sur notre site savoir avec un s.rfi.fr.
RFI.